C'est vraiment génial comme on peut dire Dieu est là, et quand il est vraiment là, quand il est là, et ben comment on peut le sentir? Et c'est chouette, c'est vraiment génial de se sentir même un peu dépassé, de pas trop savoir qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et tout. Je pense que c'est des sentiments qui sont justes quand la présence de Dieu est là. Merci papa. Merci Saint-Esprit. Quel cadeau que ta présence. Quel cadeau que le fait que tu aies choisi de venir, de descendre sur nous, et que tu le fasses encore jour après jour après jour. Continue. Continue de nous baptiser jour après jour. On est disponible. On ne veut pas se dépêcher de passer à autre chose. Merci. Merci Saint-Esprit. Alors, aujourd'hui on fête Pentecôte. Donc, on va parler de la Pentecôte. Donc, je voulais vous raconter un petit épisode de ma vie par rapport à ça. Vous savez, il y a ce fameux passage qu'on va lire d'ailleurs dans Luc 4, l'évangile de Luc. Et quand on est allé en Israël avec Emmanuel, moi c'était la première fois que j'allais en Israël, j'étais pas le genre de chrétien. Il y a des chrétiens, c'est vrai, qui ont très à cœur Israël, et c'est extraordinaire. Moi, je faisais pas partie de cela. Aujourd'hui, un petit peu plus, même beaucoup plus. Mais on a eu l'opportunité d'aller en Israël pour un voyage de 10 jours. Et il y a un jour où nous nous sommes retrouvés à Nazareth. À Nazareth, ils ont reconstitué le Nazareth du temps de Jésus. Donc il y a même des gens, des personnages, des vraies personnes qui sont là et qui font les métiers d'autrefois. Il y a des animaux, tout ça. Et vous déambulez dans ce vieux Nazareth, dans ce Nazareth d'il y a 2000 ans. Et il y a ce moment où donc on avait un guide qui était un Canadien juif messianique d'une vingtaine d'années, je crois, et il s'était converti lors d'un camp chrétien. Et du coup, c'est lui qui nous faisait la visite. Et alors que nous sommes rentrés dans la reconstitution du coup de la synagogue, et on était un groupe de je sais plus 35 personnes peut-être, on s'est tous assis, vous savez, dans les synagogues, vous êtes assis tout autour de la pièce, quoi. Il a expliqué quelque chose que je savais pas du tout, d'où l'intérêt d'aujourd'hui, ce que je vous partageais par rapport à la Pentecôte, parce que des fois on jette un peu bébé avec l'eau du bain, et que quand le bébé avec l'eau du vin, c'est pas terrible. Mais n'ayant pas compris vraiment l'intérêt de revenir aux sources un peu de la foi chrétienne, je n'étais pas du tout au courant de beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qu'il faut encore que j'apprenne. Mais ce jour-là, il nous a expliqué comme quoi Jésus, donc c'est le passage que je vais vous lire maintenant, le jour où il démarrait son ministère. Juste après être tenté par le diable, il démarre son ministère et il se retrouve à Nazareth, donc dans sa ville natale, où c'était pas évident pour lui de faire des miracles, parce que plutôt que de voir le Messie, plutôt que de voir l'homme extraordinaire, les gens reconnaissaient le Jésus, le petit Jésus qu'ils avaient vu grandir, qui connaissait la famille, ils connaissaient les oncles et tantes, ils connaissaient tout le monde, et ils avaient du mal à croire au côté divin de Jésus. Et ce que je savais pas, c'est que le jour où Jésus rentre dans cette synagogue, on lui donne en fait le rouleau, parce qu'en fait, dans la tradition juive, on décide pas, nous, on décide la semaine avant ou deux semaines avant ce qu'on va partager. Eux non, il y a la lecture vraiment qui est planifiée. C'est les prêtres qui décident de ça, je crois, au moins un an à l'avance, ou même ça suit un calendrier qui est bien plus ancien que ça. Mais en gros, c'est très précis, et il y a une lecture par jour, ils appellent ça la paracha. Et du coup, le jour où Jésus rentre dans la synagogue, on lui tend le rouleau du livre d'Ésaïe 61, un passage qu'on aime beaucoup ici. Et du coup, Jésus commence la lecture. Donc imaginez-vous ce contexte. Jésus arrive, tout le monde est un peu voilà, dans l'expectative, commence à entendre parler de lui et tout. Lui rentre, on lui tend le rouleau. Et d'un coup, et rien que d'en reparler, j'ai encore les frissons, parce que vraiment le jour où on a vécu ça, c'était quelque chose de très fort. Il ouvre le rouleau. Donc voilà, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Vous comprendrez le lien avec Pentecôte après. Comme il en avait l'habitude, il se leva pour faire la lecture biblique. Et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés, et proclamer l'année de grâce accordée par le Seigneur. » Il roula, donc il lit ça, l'Esprit du Seigneur. Et je pense que les Juifs avaient l'habitude de lire les Juifs, ils méditaient énormément, et on va y revenir aussi par rapport au sens de Pentecôte, méditaient énormément la loi et les prophètes, donc ils connaissaient presque par cœur tout ça. Mais je pense que ce jour-là, quand Jésus a prononcé ces mots, l'Esprit du Seigneur est sur moi, bam, je pense qu'il y a quelque chose de particulier, il y a une électricité qui devait être dans la pièce. Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. C'est ce qui est écrit, donc ça décrit un peu l'atmosphère. Et là, Jésus prononce cette phrase, « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour qui vous l'entendiez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Bam ! Là, c'est un moment, encore une fois, je dis souvent, il faut mettre ça en film, quoi. C'est un moment où il y a vraiment une atmosphère. Et effectivement, le jour où nous étions en train de visiter cette synagogue, ce Nathan, il s'appelait Nathan, Nathan ou Nathanaël, je sais plus, Nathanaël, il s'appelait Nathanaël, parce qu'on avait aussi Nathanaël, ton cousin qui était là avec nous. Et pendant qu'il expliquait ça, il nous a expliqué beaucoup plus de détails sur l'histoire de tout ça. Et comme quoi, vraiment, au moment où Jésus prononce ces mots-là, ça prend tout un nouveau sens. Et d'un coup, il a fini de nous expliquer tout ça et il s'est mis à chanter en hébreu. Et là, il y a la présence de Dieu qui est venue dans la synagogue. Notre guide elle-même, qui était juive non messianique, juif non converti, elle n'arrivait plus à traduire, elle ne savait plus quoi dire. C'est mon père qui avait dû prendre le relais, parce que le fameux Nathanaël parlait en anglais. Elle ne savait plus quoi dire, elle était complètement dépassée. Il y avait une électricité dans la pièce. Enfin, je pense que la plupart des... Alors, à part Nathanaël, notre cher ami qui, lui, dormait. Alors, c'était peut-être que Dieu lui parlait pendant son sommeil. Mais sinon, tous les autres, la plupart étaient en larmes, en tout cas sous le choc de ce qui était en train de se passer. Il a chanté comme ça en hébreu. Et ce jour-là, c'est vraiment ce jour-là que j'ai compris la puissance de ce passage de la parole de Dieu. Et quand Jésus Dieu a choisi que Jésus, ce jour-là, puisse lire ce verset. Et ce qui est génial, c'est que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui sommes les amis de Jésus, nous qui avons le même appel en fait que Jésus avait sur la terre, eh bien, nous, à notre tour, nous pouvons lire ce passage et dire « L'Esprit ». Et voilà le rapprochement par rapport à la Pentecôte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est en moi et il est descendu sur moi. » Et nous aussi, nous pouvons dire, comme Jésus, aujourd'hui, cette prophétie devient réalité. Par nous, parce que nous pouvons amener partout autour de nous, nous pouvons amener cette atmosphère, nous pouvons nous consoler les gens, nous pouvons nous être associés à la mission de Jésus de guérir les cœurs brisés. Voilà, et je voulais vraiment relire ça avec vous parce que le don de l'Esprit, le don du Saint-Esprit, Saint-Esprit c'est Dieu, Dieu est Père, Fils et Esprit, et souvent on dit « Ah, le Saint-Esprit c'est l'Esprit de Dieu », mais c'est plus que ça, Saint-Esprit c'est une personne, donc on peut lui parler comme on parle au Père, comme on parle à Jésus, notre frère, notre ami, on peut dire Saint-Esprit, on peut lui parler, c'est une personne à part entière, c'est pas juste une puissance, vous savez, c'est pas juste une espèce de puissance comme ça qui flotte dans l'air, non, il se manifeste, enfin, c'est très difficile de décrire en fait le Saint-Esprit, c'est humainement, on peut pas trop, mais ce qui est sûr, c'est que c'est une personne et qu'il est extraordinaire. Et du coup, je voulais un peu revenir, peut-être certains d'entre vous savent tout ça, mais c'est important, je trouve, moi, au travers de ces dernières années, j'ai vraiment réalisé l'importance de revenir aux sources de notre foi chrétienne et du coup, aux sources, évidemment, hébraïques de notre foi chrétienne. Et en fait, parce que quand on connais pas ces choses-là, et je vais pas vous faire un truc, je vais pas vous faire un cours magistral exhaustif, hein, ne vous inquiétez pas. Mais quand on ne sait pas ces choses-là, du coup, c'est, on manque une, on, c'est comme si on se privait d'expérimenter la plénitude de ce que Jésus a pour nous aujourd'hui. Et moi, c'est vraiment ce que j'ai vécu, et je vous encourage, les amis, pour moi, dans la mesure des possibilités financières, tout ce que vous voulez, ok, mais un chrétien devrait aller en Israël au moins une fois. Franchement, il faut faire ce voyage au moins une fois, parce qu'il y a tellement de choses qu'on lit dans la Bible qui, quand vous les voyez de vos propres yeux, prennent leur sens. Vous lisez, oui, Jésus machin monté à Jérusalem et tout, et vous voyez exactement par où toutes ces scènes se sont passées. Mais plus que de voir et plus que de comprendre en fonction des écrits historiques, il y a une atmosphère qui est particulière. Et ça, les gens me le disaient. Les gens me disaient, oh, Israël, tu vas voir, c'est extra. Moi, quand je suis pas convaincu d'un truc, c'est difficile de m'en convaincre comme ça. Je dis, ah oui, ok. Mais je vous promets, les amis, j'ai pris une claque extraordinaire. Et voilà, on ne sait pas qu'on idolâtre Israël, mais c'est nos racines. En tant que chrétien, on a été greffé sur cet arbre, et c'est nos racines, et c'est important. Et c'est vrai pour la Pentecôte. Donc en fait, la Pentecôte, c'est une fête juive. Avant d'être une fête chrétienne, c'est une fête juive dont on parle dans l'Ancien Testament, notamment à trois reprises dans Lévitique 23. Donc je vous dis les passages, comme ça vous pourrez lire par vous-même, dans Nombre 28 et dans Deutéronome 16. Donc dans ce qu'on appelle le Pentateuque, les cinq premiers livres de la Bible, parce qu'en fait c'était une fête annuelle. Chaque année ça tombait au même moment, comme nous aujourd'hui, chaque année il y a jour férié, et les gens vont s'empiler sur la 7 plutôt que de venir se régaler à un bon culte. non mais ça revient chaque année. Du coup, en hébreu, on dit Shavuot, c'est le nom de Pentecôte, et Shavuot, ça veut dire fête des semaines. Et pourquoi ça veut dire fête des semaines? C'est très simple. C'est qu'en fait, en grec, Pentecôte, Penta, 50 jours. Parce qu'en fait, Pentecôte, c'est 50 jours pile après Pâques. Et du coup, c'est pour ça qu'en hébreu, fête des semaines, ça veut dire qu'en gros, il y a, enfin, c'est pour parler de ces fameuses semaines qui se succèdent à Pâques. Et du coup, j'ai trouvé un super bouquin que j'ai acheté la semaine dernière, qui m'est tombé à pic. Je vous encourage à lire. Je l'ai pas lu en entier encore, mais vraiment, je me suis documenté par rapport à tout ça là-dedans aussi. Ça s'appelle « L'Église messianique se lève ». Donc, c'est vraiment sur ce principe de découvrir en tant que chrétien, et que l'Église puisse découvrir ses racines hébraïques et mieux comprendre qui elle est. Et du coup, il y a tout un mini chapitre sur Pentecôte, et ça m'a vraiment intéressé, les trois aspects de Pentecôte, parce que ben voilà, nous en tant que chrétiens aujourd'hui en 2018, on a souvent tendance à insister sur Actes 2 verset 1. Vous savez, les apôtres sont dans la chambre haute et d'un coup le Saint-Esprit descend, ce que Jésus avait prédit, promis, mais il y a d'autres aspects. Donc Shavuot, donc cette fête juive de Pentecôte, c'est premièrement une fête des prémices. En fait, vous voyez la saison qu'on est là, c'est pas encore l'heure de moissonner, c'est pas encore la saison pour moissonner les champs, le blé, c'est trop tôt. Mais c'était la période où il y avait les premiers résultats, les premières récoltes. Il y avait déjà les prémices, il y avait déjà les débuts de ce qu'allait être la récolte de cette saison-là. Et du coup, en Israël, vous savez, c'est dans le désert, hein, grosso modo, même s'il y a la mer, c'est quand même dans le désert. Et du coup, dans des pays désertiques, le fait d'avoir une récolte, c'est quelque chose qui n'est pas anodin. Nous, ici, bon, encore à Montélimar, c'est plutôt sec et tout, mais dans certaines contrées, le fait qu'il pleuve, le fait de pouvoir avoir des récoltes agricoles, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y a tout un tas, enfin, il y a des milliards de peuples autour de la planète qui sont, il y en a même qui font des danses de la pluie, des choses, des incantations, parce que la pluie, c'est super important, et il faut que le ciel s'ouvre pour que la pluie tombe et pour que les graines puissent pousser, germer et avoir des récoltes. Et du coup, les cieux s'ouvrant, les cieux naturels, mais il y a bien sûr un parallèle avec les cieux célestes, les cieux dans l'esprit, souvent cette pluie tombe et fait germer les graines, et donc il peut y avoir des premières récoltes déjà au mois de mai. Et là, qu'est-ce que c'est la fête des prémices? C'est d'être dans la reconnaissance. Ça veut dire que déjà on remercie Dieu pour ce qu'il donne et ce qu'il va donner. Et je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai noté que souvent, le fait d'être dans la reconnaissance, c'est quelque chose bon, qui va nous faire du bien. On va être mieux que si on est, comment dirais-je, si on est insatisfait, à râler, à ne pas être contenté par ce qu'on a. Et du coup, c'est comme si c'était une attitude de cœur, la reconnaissance, qui allait permettre, qui allait ouvrir notre cœur à recevoir plus. Et les Juifs étaient vraiment dans cette fête des prémices à remercier Dieu. Merci Seigneur, déjà pour ce que tu nous donnes, déjà pour ce que tu nous as donné les années précédentes. Merci. Ils étaient dans cette reconnaissance. Et il y a vraiment une puissance dans cette reconnaissance. Il y a vraiment, c'est vraiment ça qui nous dispose à recevoir. Et du coup, spontanément, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils apportaient des dons. Des dons en nature, donc justement des produits, des récoltes, des, ça pouvait être des objets, des choses comme ça, ça pouvait être de l'argent aussi. Quand on est reconnaissant, spontanément, ça nous appelle à donner, parce qu'on a envie de remercier, donc on fait des dons d'une forme ou d'une autre. Et c'était vraiment une grande fête, quoi. C'était une fête où on faisait la fête, on remerciait Dieu, il y avait des danses, des chants, il y avait des dons, beaucoup de dons. Et pour nous, c'est vrai que pour nous aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, avec lequel on peut faire parallèle par rapport à la louange, l'adoration. Qu'il est bon de louer, de remercier. Il y a tellement de passages dans la Bible qui nous invite à remercier Dieu, à le chanter, à l'adorer, à le remercier pour tout ce qu'il fait pour nous, d'être dans la reconnaissance et d'être toujours joyeux. Parce que, ben voilà, c'est un peu comme ce verset, vous savez, fait de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un peu ça. À mesure que tu fais de l'Éternel tes délices, tu te délectes de ce qui Dieu est et de ce qu'il fait pour toi, c'est-à-dire que tu es dans la reconnaissance, tu dis ah, merci Seigneur parce que tu es comme ci, merci Seigneur parce que tu fais ci, tu fais ça. Il te donne ce que ton cœur désire. La reconnaissance, les amis. Soyons des gens reconnaissants. Je me rappelle une fois, Emmanuel avait fait un truc pendant 40 jours. Alors toi, t'es bon en maths, tu sauras dire si c'est correct. Mais je crois que pendant 40 jours, il fallait donner 25 raisons pour lesquelles chaque jour, pour lesquelles on était reconnaissant à Dieu. Ça fait combien 25 fois 40 ? Ça fait 1000. Pendant 40 jours, et faites le test, les amis. Je vous incite à faire ça. Pendant 40 jours. Chaque jour, vous notez 25 choses pour lesquelles vous voulez être reconnaissant à Dieu. C'est pas obligé que ce soit des choses hyper, voilà, oui, on m'a donné $1 million et tout. Non, pas du tout. Et des fois, vous savez, hier, on était chez des amis, il y a le soleil, il y a des bonnes grillades qui sont là, il y a les amis, un petit temps de louange. Déjà là, j'en ai dit 4 dans un même repas. Vous voyez ce que je veux dire ? Notez ces 25 choses, au bout de 40 jours, ça vous fera 1000 choses. Pour lesquels il y a des milliers de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant à Dieu, les amis, et je vous garantis que ça dispose vos cœurs. Déjà, vous êtes bien, on est bien quand on est reconnaissant à Dieu, et ça ouvre à plus. Ça ouvre plus. Et c'est pas un hasard, je pense que si la Pentecôte, c'est une fête de la reconnaissance, c'est une fête des prémices et de la reconnaissance de ces prémices, parce que cette reconnaissance appelle au don. Et qu'est-ce qui suit après ? C'est vraiment le don de l'Esprit. Et on peut imaginer que les disciples, alors qu'ils se sont retrouvés dans cette chambre haute, ils étaient en train, donc je pense déjà depuis plusieurs jours, ils fêtaient la Pentecôte, donc ils étaient dans cet état d'esprit de reconnaissance, ils fêtaient ces prémices. Et comme par hasard, alors qu'ils étaient dans ce cheminement-là, bam, Dieu a donné, a répandu son esprit. Si vous voulez être, si on veut être vraiment touché par Dieu, si on veut avoir des percées, si on veut voir des miracles, si on veut que notre vie soit toujours plus transformée, la vie des gens autour de nous, je pense que la reconnaissance, c'est une clé fondamentale, les amis. Oh, merci Seigneur. Notre vie n'est plus la même depuis qu'on le connaît. Même moi, je suis enfant de chrétien, mais je peux le voir, quoi. Depuis que Dieu est le centre de ma vie, tout a changé. C'est merveilleux. Le deuxième aspect de la Pentecôte juive, c'est que ça célèbre Moïse qui a reçu la Torah sur le mont Horeb, qui fait partie du massif du Sinaï, en Égypte maintenant. Et en fait, il est écrit du coup que au moment où Moïse a reçu la Torah, il y avait tout le peuple d'Israël qui campait en dessous. Et là, il y avait plus qu'une nuée, il y avait le feu du ciel qui était là, quoi. Et alors que vous savez que c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible, et le feu du ciel était là, et il y avait vraiment cette unité entre le feu du ciel, qu'on peut vraiment, ce qui est vraiment un des symboles, une des images de l'esprit, et le don de la Torah. La Torah, qu'est-ce que c'est ? Je ne sais plus ce que ça veut dire exactement, mais vous savez, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc en fait, c'est ce que les Juifs appelaient la loi. Et ensuite, vous savez, il y a tous les autres livres qui suivent, les prophètes. Du coup, c'est pour ça que sans cesse dans la Bible, il est parlé de la loi et des prophètes. La loi, ça ne veut pas dire, c'est pas que tu dois. Non, c'est la loi, c'est vraiment la parole de Dieu, l'enseignement de Dieu sur comment vivre pour être heureux, tout simplement. Et parce que Dieu, souvent on dit, ah, le Dieu du Nouveau Testament est gentil, le Dieu de l'Ancien Testament est méchant. Mais c'est pas vrai. Dieu, il vient, il se choisit un peuple et il fait, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait alliance avec ce peuple et tout de suite, Jésus est déjà prévu depuis toute éternité, la croix est déjà prévue dans le cœur de Dieu parce qu'il voit que, ben voilà, malheureusement, Dieu veut toujours se rapprocher de son peuple et son peuple, et nous, on est un petit peu comme ça aujourd'hui. Un coup, il dit oui, un coup, il s'éloigne, mais toujours la grâce de Dieu qui rattire son peuple à lui. Et en fait, la révélation de la parole de Dieu, la révélation de la Torah, c'est la révélation, au-delà de ça, de l'amour de Dieu pour son peuple. C'est un Dieu qui veut parler à son peuple, qui veut lui donner des choses. Et au travers de Moïse, il fait ça. Et ça, c'est le deuxième aspect que les Juifs célèbrent. Alors, vous voyez, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle en général dans les églises aujourd'hui, mais c'est vraiment lié à l'enseignement. Et il y a une phrase que ce bouquin disait, que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au travers de la parole de Dieu, quand on s'imprègne, c'est pareil pour la reconnaissance, les fêtes juives, en général, ça durait plusieurs jours d'affilée, c'était pas juste un jour, c'était plusieurs jours. Et du coup, l'avantage de ça, c'est qu'on avait vraiment le temps de s'imprégner de l'atmosphère, de s'imprégner de ce qu'on fêtait. Et on peut imaginer que les disciples dans cette chambre haute étaient aussi en train de ressasser, aussi en train de méditer tous les passages que Dieu avait parlé, Ésaïe 61, celui qu'on vient de lire, où l'Esprit du Seigneur est sur moi, Joël, le prophète Joël, où il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Dieu avait déjà mentionné ce Saint-Esprit qui allait venir à plusieurs reprises, et on peut imaginer qu'alors qu'il célébrait la Torah, alors qu'il célébrait la parole de Dieu, eh bien, il relisait tous ces passages, parce que Jésus leur avait dit, attendez, je vais vous envoyer mon esprit, il va venir sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Et du coup, je pense que les disciples étaient vraiment bien dans cet état d'esprit-là. Parce que le Saint-Esprit, c'est, vous savez, pour ceux qui connaissent le sozo, cette méthode un peu de relation d'aide par le Saint-Esprit, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qu'on met en parallèle avec la mère. Vous savez, dans une famille, il y a le père, la mère, les enfants. Le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui est mis en parallèle avec la mère. Et la mère, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit ? Il enseigne. Et la maman, c'est ce rôle que Dieu lui donne d'être celle qui enseigne dans la famille. Et c'est chacun a son rôle. Le père, il révèle l'identité. La mère, elle enseigne. Et les frères, Jésus qui représente bien sûr les frères ou le conjoint ou la conjointe, c'est vraiment ce partage qu'il y a, ce partage relationnel. Et l'esprit enseigne. Et alors que il y avait le feu de la présence de Dieu qui descendait sur ce mont Horeb, et bien la parole a été donnée à son peuple. Et on sait plus tard dans Jean 1, on lit que Jésus, la parole s'est faite chair et est venue parmi nous. Jésus, c'est comme la révélation de tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Jésus lui-même, la parole qui s'est faite chair, venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et le troisième aspect, ben c'est vraiment cette venue de l'Esprit. L'Esprit qui est répandu, le Consolateur. Et vraiment, dans Ésaïe 61, vraiment ce que j'aime, c'est que voilà, l'Esprit destiné à délivrer les captifs, guérir les cœurs brisés. C'est vraiment, ça met en mots, on dit l'Esprit, c'est le Consolateur. Ce passage, pour moi, met vraiment en mots. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, le Consolateur ? Ben, ça veut dire tout ce qui est écrit dans Ésaïe 61. Et il est venu ce jour-là avec puissance. C'est vraiment incroyable. Et c'est Emmanuelle qui me disait, elle préparait ça pour les enfants, c'est ce qu'elle fait de l'autre côté. Ce qui est génial, c'est que, vous savez, donc l'Esprit descend, les apôtres, il y a comme des langues de feu, et certains pensent qu'ils sont même ivres, et ils se mettent tous à parler dans plein de langues différentes, parce que ben, comme c'était Pentecôte, il y avait des juifs d'un peu partout, de plusieurs pays qui étaient là pour à Jérusalem pour fêter. C'est Jérusalem la capitale, c'est, en ce moment c'est un peu une actualité un peu plus compliquée par rapport à tout ça, mais c'était déjà à l'époque la capitale, et du coup il y avait des gens d'un peu partout qui venaient. Et ce qui est super, c'est vrai, j'avais jamais réalisé ça, c'est que l'esprit descendant a fait que les apôtres ont parlé dans plusieurs langues. Ça veut dire que le don de l'esprit a tout de suite été quelque chose d'universel. Il a été donné pour que tout le monde puisse se rendre compte que Dieu faisait descendre son esprit, et que, parce que les gens qui venaient là pour fêter Pentecôte, d'un coup, ils ont entendu parler dans leur langue. Donc la manifestation de Dieu sur la terre a été compréhensible, entre guillemets, par des gens qui venaient de partout. Parce que l'esprit, il vient, il se répand pour tout le monde. L'esprit des cieux est sur moi pour aller bénir et pour bénir autour de moi. C'est pas que pour moi, c'est pour moi, mais c'est aussi pour ceux qui sont autour de moi. Et j'aime ce côté Dieu qui donne abondamment au-delà de, vous savez, dans la Bible, il dit aussi vos cœurs comme des fleuves d'eau vive jailliront de votre sein. Il y a vraiment cet aspect débordement vers l'extérieur. Donc vraiment l'esprit qui est répandu, quoi. Donc voilà les trois aspects. La reconnaissance pour les prémices de ce que Dieu fait. Donc si aujourd'hui tu as envie d'être guéri, et vous savez, des fois on prie et on dit « Ah, il y a une petite amélioration ». Quand on prie pour un malade dans un contexte, enfin église ou hors église, remercions Dieu pour ce commencement, pour ces 10% d'amélioration, remercions Dieu, Dieu va continuer. Si tu as des problèmes financiers et tout, mais je sais pas, tu as un petit remboursement de droite ou de gauche, tu as 15 euros qui étaient inattendus qui viennent, remercie Dieu pour ces 15 euros, Dieu va multiplier. Le jeune garçon, il est venu avec ses 5 points et ses 2 passants. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a rendu grâce. Et derrière, des milliers de gens ont été nourris. Donc vraiment les prémices, la reconnaissance. Deuxièmement, le don de la parole. Et troisièmement, l'esprit qui est répandu. Et nous, nous sommes appelés à être un peuple de la parole et de l'esprit. Qu'est-ce que c'est beau de voir cet équilibre qu'il y a. On veut voir l'esprit se manifester. On veut voir, oui, se manifester avec des manifestations. Plus que les manifestations, on court après l'auteur des manifestations. Mais un Dieu vivant se manifeste, c'est logique. Mais il y a cet équilibre, enfin pas mais, et il y a cet équilibre avec la parole. Dieu confirme toujours. Si vous recevez un jour une prophétie, mais que cette prophétie contredit la parole de Dieu, les amis, refusez-la, ne la prenez pas pour vous. Dieu confirme toujours, il se confirme toujours lui-même. Donc c'est à nous après de jauger avec la parole. On est un peuple de la parole et de l'esprit. Et il y a quelque chose aussi qui m'a marqué, qui est très important, je trouve, une petite révélation que j'ai eue par rapport à tout ça. Ça a un rapport aussi avec le couple. C'est que j'ai lu, j'ai tapé verset par rapport à la Pentecôte, et j'ai lu 51 versets qui avaient un rapport avec Dieu qui répand son esprit, et souvent, qui avaient rapport avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ça que j'ai cherché. Et très souvent, en majorité, le baptême du Saint-Esprit est dans le même verset que le baptême d'eau. Et la majorité du temps, une grosse majorité du temps, le baptême du Saint-Esprit suit le baptême d'eau. Il vient après, dans la plupart des versets que j'ai lus. Et bien sûr, ça n'est pas une règle, je veux dire, il n'y a pas d'ordre, ah, tu dois te faire baptiser d'eau et après tu as le droit. Non, quand l'Esprit vient, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, quand l'Esprit vient, il vient et il n'y a rien qui ne peut l'arrêter. Et certains, et on parlait ce matin avec Olivier de l'exemple de Corneille, où le Saint-Esprit s'est manifesté et derrière tout le monde s'est converti et puis derrière s'est fait baptiser. Mais dans la plupart des versets où il est fait mention des deux baptêmes, il y a toujours le baptême d'eau. Et bien sûr, le baptême d'eau qui représente l'union d'une personne avec Jésus, c'est la manifestation visible, extérieure, de ce qui s'est passé à l'intérieur de la personne. Il y a Sonia qui va bientôt se faire baptiser. Et quelle joie de pouvoir montrer devant d'autres personnes. Et Et vraiment, ce qui m'a marqué, et franchement, le baptême n'est pas juste un symbole, c'est vraiment important de faire attention à ça, c'est vraiment plus qu'un symbole, c'est un acte prophétique. Quand on dit « je suis passé de la mort à la vie », au moment même où vous vivez cette chose-là, il y a une puissance qui est libérée pour que vous puissiez marcher dans la vie. Et ça, c'est extraordinaire. D'où l'intérêt de ne pas attendre 15 ans avant de se faire baptiser. Aujourd'hui, des fois, on a l'impression qu'on essaye d'attendre d'être parfait pour se faire baptiser. Non, les amis, c'est pas comme ça. C'est plutôt de se faire baptiser qui va vous aider à devenir parfait. Bon, vous aurez encore du chemin à faire derrière, mais il faut être simple. Et ce que j'aime, c'est il y a ce baptême d'eau qui précède souvent parce que dans ce côté Saint-Esprit, dans ce côté baptême de l'Esprit, il y a vraiment ce côté intimité avec Dieu. Le Saint-Esprit qui descend sur nous, il y a cette intimité. Mais Dieu ne nous force pas la main et il donne cette intimité, il donne cette visitation particulière souvent pour des gens qui ont fait le choix de le suivre. Ça veut dire qu'il y a un engagement qui précède une intimité. Et je trouve ça beau, ça me fait penser au mariage, vous savez, on s'engage, on signe à la mairie en France ou dans d'autres pays à l'église, on signe, on s'engage et derrière, il y a la nuit de noces, il y a l'intimité qui vient. Et je trouve ça beau que, parce que vous savez, des fois quand le Saint-Esprit vient, ça se manifeste, voilà, il y a des gens qui tombent par terre, il y a des gens qui vivent des... Pas pour tout le monde, hein, mais des fois, il y a ces manifestations, voilà. Mais Dieu, non, c'est quand même, il ne nous force pas la main et il donne ça aussi aux gens qui l'ont accepté, qui ont pris cette décision de devenir disciples parce qu'il ne veut pas, nous mettre en difficulté, je pense, avec une intimité sans un engagement, comme on dit aux jeunes de se marier, quoi, plutôt que de brûler. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Parce que voilà, quand on dit oui à Jésus, eh bien, on reçoit derrière le full package, quoi. On reçoit l'esprit qui descend, qui vient. Et j'aime beaucoup, moi, il y a certains mouvements où on voit des gens se convertir et tout de suite, tac, veux-tu être baptisé ? Allez, ils se font baptiser. Veux-tu être baptisé du Saint-Esprit dans la foulée, la même journée ? C'est génial, quoi. Moi, j'aime beaucoup voir ça parce que. Comme l'eunuque avec Philippe, où il sort de tac, on n'attend pas 10 ans, il y a une flaque d'eau, là il y a une mare, allez, on baptise directement. Et le Saint-Esprit, c'est vraiment pour nous et pour les autres. Et pour revenir à ce passage du début, l'Esprit des Seigneurs est sur moi. Alors je ne crois pas dans cette version, mais dans d'autres versions, dans la seconde en tout cas, il est dit « car il m'a oint ». Il m'a oint. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, c'était les rois qui étaient oints. Le roi David a été oint par le prophète Samuel. Samuel ? Oui, c'est Samuel. Il a été oint, donc on met de l'huile. Et qu'est-ce que ça représente, le fait d'être oint, de mettre de l'huile comme ça ? Ça représente vraiment une autorité. L'autorité, avant même qu'il devienne roi, il a reçu l'autorité de roi. Et j'aime parce qu'alors que nous pouvons nous aussi aujourd'hui nous approprier ce passage, l'Esprit du Seigneur est sur moi, est en moi parce qu'il m'a oint, eh bien, ça nous donne cette légitimité, cette autorité. Nous avons l'autorité, les amis, pour faire tout ce qui est marqué par la suite, pour vraiment proclamer des choses, pour aller de la part de Jésus guérir les cœurs brisés, proclamer la liberté aux captifs. C'est pas juste une mission que l'on accepte, c'est qu'on est oint. Non seulement on accepte la mission, mais Dieu nous donne, tac, l'autorité pour faire ça. Vous savez, et j'avais entendu ça une fois, et c'est vrai, je pense qu'on ne peut pas avoir plus d'autorité. On peut avoir plus de puissance, mais on ne peut pas avoir plus d'autorité. L'autorité, elle est donnée. Après, c'est soit tu en prends conscience, soit tu n'en prends pas conscience, soit tu choisis de réaliser l'autorité que tu as en Christ et du coup, tu marches dans cette voie-là. Mais on ne va pas te donner plus d'autorité. Dieu t'a donné toute autorité. Dieu t'a donné toute autorité dès aujourd'hui pour faire tout ça, pour aller guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts. L'autorité, nous l'avons. Mais nous avons besoin de la puissance. Nous avons besoin de la puissance. Parce que on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et ça, c'est un principe biblique qui est important. on ne peut donner que ce qu'on a reçu. On n'est pas là pour s'épuiser. Ça, c'est la religiosité qui est vraiment cette idée de performance où, ah, pour être un bon chrétien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Non, ça, c'est l'opposé. Ça, c'est l'opposé de ce que Dieu nous propose de vivre, ce que Jésus nous propose de vivre. On est là pour être rempli et pour déborder. C'est la différence entre, souvent j'entends cet exemple, c'est parlant, entre la mer morte et le lac de Tibériade. Vous savez, en Galilée, il y a le lac de Tibériade, donc vous avez le Jourdain qui en ressort, et en fait le lac de Tibériade, comme il a cette sortie, et il y a le Jourdain qui part de là, eh bien il se renouvelle, l'eau est pure, elle est super pure pour s'être baignée dedans, elle est super bonne en plus, c'est magnifique. C'est vraiment un endroit splendide, quoi. Ça respire la vie partout autour. C'est des palmeraies. C'est vraiment magnifique, quoi. Cet endroit luxuriant, ça respire la vie. Et de là, donc le Jourdain descend, vous savez, et arrive vraiment de plus en plus dans le désert. Et là, il y a la mer morte. Et la mer morte, c'est l'opposé complet. Et la mer morte, le problème, c'est qu'elle ne débouche sur rien du tout. Il n'y a rien. Après, c'est le désert. Donc la mer morte, elle reçoit cette eau du Jourdain. Comme elle ne redonne pas, eh ben, tout reste là. Et tout, donc la concentration, vous savez, en sel est extrêmement élevée. Et c'est impossible qu'il y ait la moindre vie, quoi, dans la mer morte. Elle s'évapore de plus en plus et il n'y a pas de vie. Donc plutôt que d'être des mers mortes, soyons des lacs de Tibériade. Ce qu'on reçoit, on le donne, on le garde pas pour nous. Et souvent on se dit, ah non, mais moi je suis pas encore assez spirituel, je peux pas prêcher, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça parce que je suis... Non, on a tous quelque chose à donner, quelque chose que Dieu nous a donné. Tu es forcément plus avancé que quelqu'un d'autre dans un domaine. Tu as forcément une expérience, Dieu a forcément fait quelque chose dans ta vie qu'il a fait en toi pour que tu puisses... Que d'autres autour de toi puissent en bénéficier. Parce qu'on vit des choses difficiles dans la vie. Moi-même, j'ai vécu des périodes de ma vie où c'était dur, où j'ai fait des bêtises, où je me suis éloigné de Dieu et j'étais mal. Et des fois, dans ces périodes-là, on est là, mais pourquoi, quoi ? Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi j'ai fait ça ? Pourquoi il m'arrive ça ? Mais avec les années qui viennent plus tard, et là, vous rencontrez des gens, vous commencez à partager ce que vous avez vécu, et là, les gens disent, ah, waouh, ça me parle. C'est la puissance du témoignage, les amis. Ça me parle ce que tu dis. Ah, est-ce que tu peux prier pour moi? J'aimerais vraiment pouvoir faire ce même chemin que toi. J'aimerais pouvoir sortir de ça. J'aimerais recevoir cette révélation que Dieu t'a révélée à ce moment-là. Les amis, on a tous quelque chose à donner. Donc, il est 18h03. Et j'avais vraiment à cœur qu'on repasse quelques minutes. Les enfants, je pense, sont partis un peu tard. Donc, ils vont revenir dans quelques minutes. Olive, si tu peux jouer. Tout simplement, voilà, comme je l'ai dit sur Facebook, je trouve qu'une des plus belles manières de remercier Dieu pour le don de son esprit, pour Saint-Esprit qui est venu, c'est de profiter de sa présence, d'être là et d'en profiter. Et donc, je vous invite vraiment, les amis, peut-être à vous rapprocher, on est peu nombreux, donc venez là, rapprochons-nous, et on va se mettre ensemble, on va se donner la main, et on va remercier Dieu, quoi. Vous savez, les apôtres étaient dans la chambre haute. Je pense pas que c'était un endroit immense. À mon avis, ils étaient assis les uns avec les autres. Ils étaient un peu ensemble comme ça. Et vous savez, il y a ce verset que j'aime. C'est un peu le leitmotiv de notre groupe d'hommes. Qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Alors quand on est ensemble, et d'être ensemble, c'est un peu comme au Moyen-Orient. Il faut qu'on se touche, il faut qu'on puisse vraiment savoir qu'on est ensemble. Donc voilà, je vais poser le micro et Luc, tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux. Merci.